Et voisine, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons du financement participatif ou du crowdfunding. Littéralement, cela veut dire la foule qui finance des projets de toutes sortes grâce à Internet. Ce système existe depuis près de 8 ans. Rien qu'en France, plus d'un million de Français ont financé les rêves des autres. Une PME qui lance des lunettes en bois ou un agriculteur bio qui veut s'équiper en solaire ou une exposition pour un artiste. La France est ainsi la championne d'Europe du financement participatif sous toutes ses formes, en dons, en prêts ou en prise de participation au capital. En Afrique, le financement participatif démarre avec des plateformes internet africaines, mais pour des financeurs qui peuvent être partout dans le monde, bien sûr. Alors ces plateformes pourraient-elles à terme se substituer aux banques trop frileuses? Quelles sont les règles à respecter et les opportunités aussi à saisir? Comment réussir le financement d'un projet? Nous allons en discuter avec nos invités. Jean-Yves Léger, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un guide absolument parfait pour tout savoir sur le fonctionnement du crowdfunding. Après une carrière dans des grands groupes, notamment agroalimentaire et communication, nous sommes également avec dans le studio Thomas Kakou, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le fondateur de la plateforme de financement participatif qui s'appelle It's About My Africa.
C'est ça.
Ça concerne mon Afrique, donc traduction.
Exactement.
Beaucoup d'anglais hein, quand on parle de financement participatif. Votre plateforme a été créée en janvier dernier.
Oui, hein, elle
vraiment,
est toute nouvelle.
Voilà,
toute
c'est un bébé plateforme.
C'est
vous
ça.
Avez démarré. Vous démarrez en fait avec le financement de projets d'eau potable en Afrique. C'est vraiment la spécialité de cette plateforme.
Hein. Oui, c'est le tout premier projet qu'on a voulu lancer. On a voulu lancer un projet d'envergure, un projet qui parle un peu à tout le monde. Une histoire de donner un peu le ton pour montrer aux entrepreneurs sociaux qu'on souhaite accueillir sur la plateforme comment faire, comment monter un projet, comment communiquer là-dessus.
Voilà.
Et voilà.
On va en parler bien sûr avec vous. Franck Langevin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes basé à Ouagadougou, vous travaillez au financement participatif d'un savon destiné à éloigner les moustiques et donc le paludisme. Donc c'est une start-up sociale qui s'appelle Faso Soap, qui est basée au Burkina Faso. Et donc vous allez démarrer une collecte demain, justement. On va en parler. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines qui nous écoutez, nous attendons vos questions sur le sujet du financement participatif ou vos expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, ou que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous dès maintenant si vous souhaitez dialoguer avec nos invités. N'attendez pas la fin de l'émission. Je vous redonne le numéro 33 1 84 22 71 71. Des messages assez enthousiastes, évidemment, sur notre fil Facebook quand on parle de crowdfunding. Assad à Moroni, aux Comores, nous dit « Moi, j'ai une association qui manque d'argent pour venir en aide aux autres. J'attends vos infos. » Voilà. Diaby, 40 ans, lui, est à Bamako. Il nous dit « Le crowdfunding, c'est un nouveau concept qui va résoudre bien des problèmes. Il est encore plus difficile qu'en Europe d'obtenir en Afrique un prêt de la banque, surtout quand on est jeune. C'est une bonne alternative. » Ousmane est à N'Djamena, au Tchad. Si ces demandes de financement participatif sont bien boostées, cela pourrait aider les projets de la jeunesse africaine. C'est une solution à l'émergence de l'Afrique. Alors, est-ce qu'on peut tout attendre du crowdfunding? Peut-être pas, hein. On va parler aussi, bien sûr, des limites et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, préparez vos questions et appelez-nous en direct chez 7 milliards de voisins dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Jean-Yves Léger, vous qui éditez ce guide très bien fait qui s'appelle le crowdfunding, le principe de se regrouper pour mettre chacun de l'argent dans une cagnotte et pour financer un projet, c'est une idée qui est vieille comme le monde, on va dire. Hein. Ça a toujours existé. Ce qui change tout, c'est Internet.
Alors, d'abord, ce livre a été écrit avec trois autres personnes, hein, je le précise.
Alors, Karine Boyer, Alain Chevalier et Aurélie Sanajuste. Voilà, on a tout dit.
Ceci étant dit, oui, c'est pas nouveau le crowdfunding. C'est anglo-saxon à l'origine. L'accélération, effectivement, au cours de ces dernières années, est largement due à Internet. Mais quand on pense au mécénat ou quand on pense à la tontine en Afrique subsaharienne, tout ça se rapproche au fond beaucoup du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est vrai, financement participatif, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le financement par la foule. Donc il faut d'une part quelque chose à financer, puis d'autre part la foule, il faut la séduire. Il n'y a pas de miracle, les mauvais projets ne seront pas financés. Donc par rapport aux questions que vous avez évoquées tout à l'heure ou qui ont été posées, la première chose à faire quand on monte un projet de crowdfunding, c'est de rendre le projet possible et de le rendre crédible. C'est quoi effectivement le crowdfunding? C'est la rencontre, largement grâce à Internet, de trois acteurs, le porteur de projet, notamment les start-up, mais on a ce matin deux bons exemples, je crois, très différents. Deuxièmement, effectivement, les épargnants. Et ce qui est frappant, c'est que les porteurs de projet ont du mal à être financés par les circuits traditionnels et notamment sans attaque aucune par les financements bancaires. C'est une des raisons du succès du crowdfunding. La deuxième chose, c'est effectivement les épargnants. Les épargnants, aujourd'hui, ils ont envie de savoir où passe leur argent. Et ils ont envie de savoir que ça peut financer l'économie réelle, l'économie de proximité. Et je pense que là aussi, on reviendra tout à l'heure sur l'exemple en Afrique. Et puis la troisième chose, c'est la plateforme. Et la plateforme, c'est grâce au numérique. C'est grâce
c'est
à Internet.
C'est l'intermédiaire. Donc entre l'intermédiaire. Projet et puis les, voilà. Et puis les participants.
Et en France, on lui fait jouer un rôle extrêmement important à cette plateforme, puisqu'elle est une sorte de filtre. Et quand on a préparé ce livre, la plupart des présidents ou responsables de plateformes nous ont dit que, grosso modo, ils ne présentaient sur le site que 5% des projets globaux qu'ils recevaient.
Ça veut dire que
donc il y a un écrémage. La plateforme a un vrai rôle d'écrémage,
de sélection. Et de vérification.
Et de vérification et implicitement de validation.
Alors, il faut bien expliquer à nos auditeurs quand même qu'il y a différentes sortes de financement participatif.
Absolument.
Emmanuel Bastide, je peux donner sur un projet, je peux prêter ou je peux prendre une position sur en capital.
Et on va même être un peu plus compliqué. On ne peut être avoir un don sans ou avec contrepartie, c'est-à-dire le don pur, et là vous avez donné votre argent et puis vous espérez que le projet se fera, mais vous n'en tirez aucun bénéfice, entre guillemets.
Éventuellement une botte de poireaux, voilà. Si on finance un maraîcher, ça ne va pas plus loin.
Ou une salade de pommes de terre, aux États-Unis, on parlera peut-être de cet exemple un peu loufoque, mais qui a levé beaucoup de fonds. Le fonds, donc, le don avec contrepartie, donc ça peut être un disque aussi. Hein. Rappelons-nous que le crowdfunding, il a explosé en France en 2007 avec Grégoire. C'est dans le domaine de la musique. Le deuxième type de crowdfunding, c'est le prêt. Et le prêt, il peut être ou gratuit ou rémunéré. Et puis la troisième forme, c'est ce que vous avez évoqué, c'est l'apport en capital, maintenant en obligation, éventuellement en royalties. On viendra là-dessus, compliquons pas trop les choses.
Là, ça devient un peu de business.
Le prêt, il a vocation à être remboursé quand même. Bon, le capital.
L'histoire de la salade de pommes de terre.
La salade de pommes de terre, c'est aux États-Unis, mais on a d'autres exemples de ce style. Hein. Rappelez-vous qu'un fonds, une plateforme française a voulu vendre le palais de l'Élysée pour attirer l'attention sur le fait qu'on bradait un peu les monuments publics. Aux États-Unis, il y a effectivement quelqu'un qui a lancé sur un site la vente de salade de pommes de terre, en échange de quoi il donnait ou la recette ou une photo ou le paquet luxe, c'est-à-dire la salade de pommes de terre enveloppée et envoyée aux donateurs de fonds. C'est loufoque, c'est pas très sérieux, mais ça existe. Il y a eu quand même 7500, je crois, personnes qui ont financé
ce
projet.
Ça veut dire qu'on trouve absolument le meilleur LP. On trouve absolument tout dans le financement participatif aujourd'hui. Très clairement, comment ça fonctionne, que ce soit d'ailleurs du prêt ou du don, le financeur, donc l'épargnant, comme vous l'appelez, vire de l'argent sur la plateforme via sa carte bancaire, c'est ça, en quelques clics.
Alors d'abord, il faut que la plateforme existe. Et je voulais insister là-dessus parce que la France est assez en avance en matière de réglementation. Ce n'est pas une réglementation très ancienne puisqu'elle date de 2014. Hein. C'est la première fois qu'on évoque le crowdfunding en France au niveau pouvoir public, c'est en 2013. On dit, tiens, c'est une nouveauté. En 2014, on fait une ordonnance et un décret qui ont été d'ailleurs complétés récemment aux assises du financement participatif par le ministre de l'économie, qui a élargi effectivement les sommes qu'on peut investir. Donc cette plateforme, elle se crée et elle est immatriculée. Ça veut dire qu'elle est contrôlée. N'importe qui ne peut pas ouvrir une plateforme. Elle est contrôlée par un organisme qui s'appelle l'ORIAS. Elle sera surveillée par deux organismes que vos auditeurs connaissent au moins pour l'un de nom. Mmh. C'est l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et l'autre, c'est la PRR, l'Autorité de contrôle.
Mais elle n'est pas considérée comme un établissement
elle
bancaire pour autant.
Non, pas du tout. Et je dirais que l'ordonnance et le décret ont au contraire entamé le monopole bancaire en matière de crédit, puisque les banques n'ont plus le monopole de distribution du crédit. Mmh. Une fois que cette plateforme existe, elle va faire connaître les projets par un site internet. Et là, il suffit d'aller sur les sites, de s'y matriculer.
On va quand même citer les plateformes très connues, mais on va bien sûr les noter aussi sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Si vous nous écoutez, vous pouvez aller aussi sur le site. Pour les dons, il y a KissKissBankBank qui est très connu. My Major Company,
absolument,
c'est plus sur des projets culturels, musicaux, etc.
Les
prêts, il y a Hello Merci, il y a Uniland.
Et Babylone. Hein,
voilà. Et puis pour les participations au capital d'entreprise, là, c'est quand on veut vraiment faire aussi du business, hein. Il y a WeSeed.
WeSeed, Anaxago, qui s'oriente un peu plus d'ailleurs vers l'immobilier, on pourra peut-être
voilà.
en parler.
Ces plateformes et ces financements traversent en théorie très facilement les frontières.
Normalement, oui, absolument, notamment par le biais d'Internet.
Ouais. Mais finalement, dans la psychologie du financeur, il aime financer des choses près de chez lui.
Et oui, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'un des avantages du crowdfunding, c'est de financer l'économie réelle de proximité. Si à l'inverse, on commence à aller financer des choses à l'autre bout du monde, on s'éloigne un petit peu de ce qui me semble être un des avantages philosophiques et pratiques. Du crowdfunding.
Ces plateformes prélèvent évidemment un pourcentage
oui,
des sommes versées. C'est comme ça qu'elles-mêmes font du business.
Oui, absolument. Hein. Et en fonction d'ailleurs de la typologie prêt, don ou apport en capital, les frais seront différents. Mmh. Et en général, les frais, pour simplifier, sont liés au montant levé. Mmh. Hein. Mais effectivement, un don avec contrepartie, c'est-à-dire l'envoi de la contrepartie, ça coûte plus cher qu'un don sans contrepartie. Et le prêt, pareil.
Participation moyenne, en général, on parle de 60 euros.
Oui, alors ça va de 60 euros à 200 euros.
Les moyennes dans le domaine... Ça n'a pas besoin d'être très riche
pour
faire du crowdfunding.
Ce qu'il faut retenir, pour revenir sur votre question, c'est comment on fait. On va sur cette plateforme, on choisit un projet, et en fonction de ses moyens... on investit.
Il y a des gens qui mettent 5 euros.
Il y a des gens qui mettent 5 euros.
Ouais. Faut dire que ce sont des projets qui sont en général pas très coûteux.
En moyenne,
ces projets sont des projets de quelques milliers d'euros.
Absolument.
Hein. D'accord.
Notamment dans le cas des startups.
Comment un donateur ou un financeur ou un prêteur va un peu contrôler où va son argent et à quoi il sert?
Alors, il y a une première question qui se pose, c'est effectivement où va mon argent? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir contrôler? Quand vous êtes actionnaire classique, vous avez une assemblée générale tous les ans et vous allez à l'assemblée. Là, dans le cas du crowdfunding, beaucoup de plateformes confrontées à ce sujet ont créé soit des comités stratégiques, on ne les appelle pas conseils d'administration, mais des comités stratégiques où se retrouvent d'ailleurs des gens de la plateforme et parfois des investisseurs. Là, il n'y a pas de règles strictes. C'est au fond, chacun fait un petit peu ce qui est le plus simple pour lui et probablement le plus positif pour l'investisseur. Parce que si vous bernez les investisseurs une fois, ils ne vont pas revenir. Hein, je les appelle investisseurs parce qu'ils ont épargné et ils ont investi. C'est de ce point de vue-là des investisseurs. Je crois simplement, et toutes les enquêtes, notamment sociologiques, le montrent, c'est que la relation de ces investisseurs au risque et donc à l'exigence de rentabilité est différente. On n'est pas dans le cas des actionnaires classiques. Et je voulais d'ailleurs dire...
C'est-à-dire qu'on mise nettement moins quand même aussi.
On mise moins et puis on mise dans une autre logique.
Donc on est plus dans l'affectif, c'est ça, on a envie de s'engager, c'est
exactement.
Ça
à la limite, on peut voir les promoteurs du projet, on peut les voir,
on peut les toucher.
C'est vraiment
ce qu'on peut appeler la finance positive.
C'est la finance positive.
La finance des bons sentiments, d'une certaine
manière. Et je voulais ajouter un mot simplement sans noyer de chiffres, mais vous avez évoqué tout à l'heure un peu plus d'un million. À fin 2015, qui est le dernier chiffre qui est sorti il y a quelques jours, on était en France en cumulé à 2 300 000 personnes qui ont qui sont crowdfunders.
C'est ça. Et depuis 2009, 90 millions de dons en
exactement,
France, ce qui n'est quand même pas négligeable.
Exactement.
Hein, bien sûr.
Et on est à 300 millions d'investis l'an dernier, ce qui est quand même assez considérable aussi.
Sur le papier, tout ça a l'air assez simple. En réalité, pour ceux qui veulent mobiliser la foule, justement, donner envie de participer à son projet, c'est pas simple du tout. On va en parler. Vos questions, vos témoignages, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
Thomas Kakou, vous êtes le fondateur de la plateforme de financement participatif en Afrique.
It's About My Africa.
Voilà, It's About My Africa. donc ça concerne l'Afrique. Comment est née cette plateforme?
Alors, It's About My Africa est né de la volonté de vouloir aider les entrepreneurs sociaux, africains ou non, mais comme un projet qui impacte le continent. C'est-à-dire de permettre à des projets révolutionnaires, innovants, d'intérêt public qui concernent tout le monde, de permettre à ces projets de se faire financer justement par tout le monde. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Je travaillais auparavant dans un cabinet de lobbying avant de lancer cette initiative parce que je voulais...
Enfin, initiative, c'est une start-up en fait, votre plateforme. Hein.
C'est totalement.
C'est ça, qui est destiné à gagner de l'argent, normalement.
Aussi.
Là aussi est important.
Aussi, c'est-à-dire à fonctionner.
Oui. Alors, il y a plus de 300 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Hein. Ce sont les chiffres que vous donnez, en tout cas. Et évidemment, l'idée, c'est... Alors, vous avez démarré déjà avec des projets que vous cherchez à faire financer en eau potable au Tchad, à Madagascar, c'est ça ?
Voilà, le premier projet qui a été lancé sur la plateforme est le projet eau potable en Afrique. Donc, c'est un projet qui vise à fournir de l'eau potable dans les régions les plus touchées d'Afrique. Et ce projet a été découpé par palier d'intervention, par niveau d'urgence, en fonction des zones d'intervention. C'est-à-dire qu'en fonction des dons, nous pourrons par la suite intervenir au sein des zones les plus touchées. Ces paliers d'intervention partent de 10 000, 50 000 à 100 000 euros. Nous avons pour l'instant atteint le premier palier de financement.
Donc
ça y est. C'était véritablement le premier projet, le premier palier de financement.
Vous avez déjà récolté 10 000, c'est ça, 10 000
euros ? Plus précisément 12 800 euros de particuliers pour le premier projet. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce projet nous a apporté une visibilité à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'on a été contacté par la suite par des fondations d'entreprises, par des organisations qui nous ont demandé de présenter un peu plus amplement le projet eau potable en Afrique et nous, on trouve ça super.
Ouais. Et qui sont vos contributeurs? Vous les connaissez forcément?
Les contributeurs, oui, pour la plupart, ce sont des particuliers à 100% pour l'instant. Ce sont des personnes issues de la diaspora.
Ouais, africaine,
beaucoup.
Donc.
La diaspora africaine, et on est content puisque c'est effectivement ce que l'on visait, voilà, que la diaspora puisse s'impliquer dans des projets d'action qui touchent le continent, de la diaspora et aussi du monde entier.
Qui touche pas d'ailleurs forcément leur pays d'origine, hein.
Non, pas du tout.
Ça peut être
dans le projet eau potable en Afrique, voilà. Mais dans le crowdfunding généralement également, c'est vraiment comme vous l'appelez la finance positive, c'est-à-dire que voilà, là où on a des sentiments, on intervient. Là où dans le projet dans lequel on croit, on n'hésite pas véritablement à contribuer.
Donc déjà 12 000 récoltés, là vous passez au palier supérieur.
Exactement.
C'est ça.
Alors avec des entreprises, avec des contributeurs plus importants.
Ouais. Franck Langevin, vous donc vous cherchez à démarrer une levée de fonds qui va démarrer demain, hein, donc via du financement participatif, avec ce projet de start-up sociale qui s'appelle Face au Soap. En quelques mots, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit.
On parlait de rêve tout à l'heure. Je trouve que le mot était beau. En fait, notre rêve, c'est de sauver 100 000 vies du paludisme d'ici fin 2018 en mettant un savon anti-moustique dans les mains des populations les plus vulnérables. Ça, c'est notre rêve. Donc, on est en phase de recherche actuellement. On travaille sur comment concevoir un savon capable d'éloigner en fait les moustiques pendant 8 heures en intégrant des huiles essentielles répulsives à l'intérieur, des micro-capsules, donc c'est la nanotechnologie en fait.
Il y a un ingénieur burkinabé dans la boucle, hein, notamment. Vous êtes plusieurs.
On est au Centre national de recherche en fait contre le palu à Ouaga. Donc on teste ces différents savons, ces différents prototypes, en fait, sur des anopheles femelles, soit sur les moustiques qui transmettent le paludisme, pour voir quelles sont les techniques, quelles sont les substances, en fait, les plus efficaces pour arriver à protéger de 17h à 1h du matin, c'est-à-dire le moment, en fait, où les moustiques piquent et le moment où au début où les enfants sont lavés en fin de journée.
Bon, les huiles essentielles contre les moustiques, ça, c'est pas vraiment nouveau.
Non.
Vous démarrez une levée de fonds, donc, une opération de financement participatif sur la plateforme Ulule,
tout
c'est
à
ça
fait.
Il faut évidemment que vous démontriez que ce savon-là a quelque chose de plus que tout ce qu'on a pu voir par le passé. Hein.
Tout à fait. Bah, la manière dont on agit, à savoir de tester chacune des huiles répulsives, les combinaisons d'huiles répulsives et les techniques d'intégration d'un savon, personne ne l'a fait auparavant. Alors qu'il y a des savons anti-moustiques qui existent dans quelques endroits, mais personne n'a une démarche véritablement scientifique pour en faire un produit.
On va y revenir justement. D'accord. Comment vous allez fonctionner? Comment fonctionne le financement participatif? Comment on persuade les contributeurs? Vous nous appelez au 33 hein, 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes juste après le flash.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Aujourd'hui,
comment faire la chasse aux débris spatiaux de plus en plus nombreux au-dessus de nos têtes? Comment lutter contre la pollution spatiale? Pourquoi des éboueurs de l'espace?
Autour de la question,
Caroline Lachowski.
Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Il est 12h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
Edmond Sadaka.
L'actualité en 3 minutes à Moscou. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson s'entretient en ce moment avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Le diplomate américain est venu dire au Kremlin qu'il condamne son soutien au président syrien Bachar el-Assad. Un dossier syrien largement abordé aujourd'hui par François Hollande dans un entretien accordé au quotidien français Le Monde. Bachar el-Assad porte désormais l'étiquette de massacreur chimique, déclare notamment le président français qui dénonce le sentiment d'impunité du régime. L'option militaire en Syrie est encore plus défendable qu'en 2013, en l'absence d'avancées diplomatiques, ajoute encore François Hollande. En Allemagne, la police se dirige manifestement vers la piste islamiste après l'attaque qui a visé hier soir le bus du club de football de Dortmund. Selon plusieurs médias allemands, la lettre retrouvée sur les lieux des explosions évoque la participation de l'Allemagne à la coalition contre le groupe État islamique, tout comme l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en décembre. Le parquet fédéral a pris en main l'enquête initialement ouverte pour tentative d'homicide. Il est le seul compétent en matière de terrorisme. Il doit s'exprimer tout à l'heure dans 1h30 environ, à 12h temps universel. En Iran, l'ex-président conservateur Mahmoud Ahmadinejad crée la surprise et la confusion aussi en se portant candidat à la présidentielle du 19 mai malgré l'opposition du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Mahmoud Ahmadinejad, qui était en retrait depuis son départ de la présidence en 2013, a donc expliqué tout à l'heure que son initiative ne signifiait pas qu'il désirait retrouver le poste de président, mais à soutenir la candidature de son ex-vice-président Hamid Bagé. Les Philippines dépêchent des renforts sur l'une des îles les plus touristiques de l'archipel, l'île de Bohol. Les affrontements qui s'y déroulent mettent aux prises les militaires à des combattants islamistes présumés appartenant au groupe Abu Sayyaf, une organisation spécialisée dans les enlèvements crapuleux et qui a prêté allégeance au groupe État islamique. L'actualité, c'est également le Brésil où la crise politique s'aggrave. La Cour suprême autorise l'ouverture d'enquête contre 9 ministres du gouvernement impliqués dans le scandale de corruption Petrobras, scandale qui bouleverse le pays depuis plusieurs mois. Plusieurs dizaines de parlementaires aussi sont également impliqués par cette décision de la Cour. J-11 avant le premier tour de l'élection présidentielle française. Plusieurs meetings au programme aujourd'hui. Emmanuel Macron est à Pau dans le sud-ouest, accompagné de François Bayrou, François Fillon à Lyon, Jean-Luc Mélenchon à Lille dans le nord. 12h33 à Paris, c'est la fin de ce flash.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle aujourd'hui très concrètement du financement participatif ou du crowdfunding. On a pas mal de messages sur les réseaux sociaux de jeunes, évidemment, qui s'y intéressent beaucoup, qui disent enfin on va pouvoir trouver de l'argent pour financer nos projets, notamment sur le continent africain, alors que les banques sont tellement frileuses. On en discute avec vous, Jean-Yves Léger. Vous publiez un livre très pratique, très pédagogique qui s'appelle le crowdfunding. Thomas Kakou, vous nous parliez de votre start-up qui est née il y a quelques mois, qui est une plateforme de financement participatif pour des projets exclusivement sur le continent africain. Et d'ailleurs, et pour cause, ça s'appelle cette plateforme It's About Africa, My Africa, pardon, My Africa. C'est à propos de Mon Afrique, Franck Langevin. Vous cherchez à récolter des financements pour votre start-up sociale qui s'appelle Face au Soap et qui est basée au Burkina Faso pour fabriquer enfin et diffuser de très nombreux exemplaires un savon anti-moustique, donc évidemment pour lutter contre le paludisme. Alors ce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission, c'est que quand on ouvre un financement participatif, c'est limité dans le temps. Il faut que le projet affiche un objectif, dise voilà, nous on vise, c'est ce que vous nous disiez Thomas Kakou, vous visiez 10 000 euros pour le premier palier, vous avez récolté 12 000, donc là vous avez remboursé personne. Si vous n'aviez récolté que 5 000 euros, alors que votre palier était à 10 000, vous auriez été obligé de rembourser les investisseurs, c'est ça ?
Oui, les donateurs.
À un moment, là, ce sont des donateurs sur votre projet.
It's About Africa, c'est plutôt du don.
C'est du don.
Avec contrepartie. Et avec
sans contrepartie, c'est quoi alors ? Sur des projets d'eau potable, on vous envoie un bidon d'eau potable.
Non, ça aurait été sympa. Mais non, en fait, à contrepartie, c'est plutôt une photo de remerciement des habitants du village dans lequel on intervient, une vidéo de remerciement
des
habitants.
Bon, c'est du symbolique, on est d'accord.
Voilà,
c'est vraiment du don.
Symbolique.
Parce qu'on peut donner, on peut prêter ou on peut prendre une participation au capital. Hein, c'est ce que vous nous expliquiez.
C'est ça. Et le fait également de rembourser lorsque l'objectif n'est pas atteint, ça témoigne d'une certaine crédibilité du projet.
C'est ça. Voilà. Et ça met la pression aussi aux donateurs. C'est-à-dire, décidez-vous maintenant, on ouvre le financement, pourquoi ? Pour 10 jours ? Pour un mois, à peu près ?
C'est ça la beauté du coup.
Ça peut être plusieurs semaines, il n'y a pas de règle là non plus. Il y a des fois des projets qui sont couverts très très vite, il y a des fois des projets qui sont couverts un peu plus tardivement, mais il n'y a pas une règle, c'est quelques semaines en pratique.
C'est qu'en moyenne sur Ulule, c'est 45 jours.
Voilà, pour trouver des financements pour votre savon. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle, Joseph nous appelle de Bukavu, l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Joseph.
Bonjour Emmanuel, bonjour chers invités.
Joseph, vous, je pense que, de ce que j'ai compris, vous êtes un jeune entrepreneur, c'est ça ? Vous avez des questions à poser ? Expliquez-nous.
Oui, je suis jeune entrepreneur et j'ai un projet social pour créer une ONG pour développer la région des Grands Lacs. Nous œuvrons dans le domaine de relations humaines, mais également les droits de l'homme, ainsi que l'environnement et la culture, également la prévention des luttes contre le sida et la résolution des conflits.
Ah bah dites donc, ça fait beaucoup de missions, hein.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Il y a beaucoup de missions, c'est vrai. Il y a beaucoup de missions. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de créer un site web qui pourra faciliter la communication entre tous les acteurs de développement et personnes de bonne foi pour financer notre projet.
Ouais.
Mais également, nous produisons des tracts, que les étudiants, afin que beaucoup puissent savoir ce que nous faisons. Nous écrivons des demandes. Et nous les déposons auprès des organisations qui s'occupent des jeunes et du développement intégral. Notre cible, c'est la jeunesse, mais également les organisations de la jeunesse, l'environnement, la culture, qui seront également intéressées.
Ouais.
Alors j'avais deux questions à poser à nos invités.
Oui. Allez-y, Joseph.
Oui, la première, quelle est la procédure pour se lancer dans le financement participatif ?
Oui, et l'autre question ?
Notre question, comment promouvoir les crowdfunding ?
D'accord. Bon, comment on se lance alors ? Là déjà, votre projet a des missions extrêmement différentes. Thomas Kakou, est-ce que vous voulez déjà répondre à Joseph là-dessus ?
Oui, totalement.
Vous qui avez une plateforme africaine de crowdfunding, est-ce que vous prendriez Joseph sur votre plateforme ?
Bonjour Joseph, déjà le projet, oui, effectivement, a des objectifs assez importants, assez différents. Ça dépend de la plateforme et généralement, la procédure reste la même. C'est-à-dire remplir un formulaire de candidature concernant le projet avec les informations essentielles. Ce qui concerne un descriptif assez succinct du projet, l'objectif financier, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent, comment est-ce que concrètement le projet a été construit, et on le recontacte assez rapidement si on a voilà, l'impression que ce projet est vraiment cohérent et qu'il peut apporter quelque chose.
Mmh. Jean-Yves Léger.
Je voulais simplement ajouter une chose pour compléter, c'est que la première étape, c'est de convaincre la plateforme.
C'est ça,
de retenir son projet. Et donc, il faut élaborer le projet d'une manière assez complète, parce que si la plateforme n'est pas convaincue, les investisseurs ne le seront jamais.
Vous nous disiez en première partie d'émission que certaines plateformes ne retiennent que 5% des projets candidats.
Hein, absolument, c'est la moyenne qu'elles annoncent. Ce qui veut dire, d'abord, une très grande sélectivité, ou bien des projets mal construit, mal ficelé, pour dire les choses un peu plus directement.
Et par exemple,
effectivement, la première étape, c'est la plateforme.
Thomas Kakou, vous avez choisi avec votre plateforme It's About My Africa de ne sélectionner pour le moment que des projets qui sont spécialisés dans l'accès à l'eau potable. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que, en fait, pour avoir un projet qui a des chances d'aboutir et de trouver des financeurs, il faut déjà avoir un projet très ciblé, très anglais?
Oui, en fait, la plateforme, juste une petite précision, la plateforme n'a pas pour vocation à financer que des projets d'accès à l'eau potable, mais plutôt des projets sociaux.
Oui, voilà, mais vous avez démarré
pour
avec ça d'abord,
avec un projet...
pour être clairement identifié quand
Exactement.
Même.
Exactement, oui. Pour être clairement identifié, oui, l'avantage c'est d'avoir un projet qui est ciblé, qui est très bien construit, qui montre vraiment qu'il a été réfléchi et qu'il a un impact qui est mesurable. Totalement. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir un projet construit, spécifique et que l'on peut facilement déployer.
Jean-Yves Léger.
Et qui se termine par une somme, parce qu'au fond il peut y avoir le projet qualitatif, mais à un moment il faut demander une somme, que ce soit le don, le prêt ou le capital, donc ça doit se terminer par une demande concrète.
Et il faut demander la bonne somme, c'est-à-dire parfois ni trop petit ni trop gros,
Absolument.
C'est ça.
Hein, et ça la plateforme aide beaucoup de ce point de vue-là.
Oui.
Une petite précision, c'est pas magique en fait le crowdfunding, il faut avoir un réseau. Il faut, c'est pas parce qu'on poste un projet en fait sur une plateforme que comme par magie en fait l'argent va arriver. C'est-à-dire l'une des problématiques, on parle de la foule, mais c'est pas la foule en fait. On parle souvent de trois cercles de financement. Le premier c'est les amis, la famille en fait, les amis d'amis, et après il y a le grand public. Et en fait le grand public ne viendra que si vous êtes capable de convaincre à la fois les amis les plus proches de la famille et les amis d'amis. Sinon si vous allez vers une campagne dans laquelle il y a personne qui a donné de l'argent et que vous ne connaissez ni
personne
des fondateurs...
Personne n'a envie d'être le premier, c'est voilà. Ça que vous voulez dire.
Ça ne fera jamais le risque, en fait, de...
Voilà. C'est ça. Ou alors, il faut avoir l'esprit de sacrifice.
vous continuez de nous appeler, Joseph. J'espère qu'on a répondu à vos questions, qui sont des questions assez larges, mais c'est bien normal parce que vous êtes nombreux à vous interroger, à méconnaître encore ces pratiques, et c'est bien normal. Je vous redonne tous le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Est-ce qu'on parle Quand on on est vraiment dans le gros du comment mobiliser, comment réussir le financement d'un projet, le financement participatif, est-ce qu'on parle de son projet sur une plateforme de crowdfunding comme on parlerait à son banquier, Jean-Yves Léger ?
Non, et en même temps oui. Non, parce que je dirais que la plateforme a une réceptivité probablement plus grande que le banquier. Mais il y a deux choses pour la plateforme. Il y a sa propre rentabilité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas admettre ou accepter tous les projets. Sans ça, elle perdra beaucoup d'argent. La deuxième, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des règles en France pour protéger, là, les investisseurs. Que ce soit pour le prêt ou pour l'investissement en capital, il y a des limites qui ont été modifiées récemment par M. Macron, mais qui restent des limites relativement basses. Hein. C'est de mémoire 2000 euros pour le prêt et 5000 euros pour le prêt non rémunéré. Bon, donc ça veut dire que vous n'engagerez pas votre fortune sur, si tant est que vous en ayez une.
C'est pour la réglementation
c'est
en France,
pour la réglementation
ça change d'un pays à l'autre.
Ça change d'un pays à l'autre, d'ailleurs même au niveau Europe.
C'est ça.
La France, par exemple, pour les opérations en levée de capital, on est à 2,5 millions maintenant maximum. Au niveau européen, c'est 5 millions, par exemple.
Et sur le continent africain, on en est où de la réglementation du crowdfunding,
Thomas
Kakou ?
La réglementation, par exemple, en Côte d'Ivoire, est inexistante. Oui. Au niveau du crowdfunding, il y a des pays un peu plus avancés comme le Kenya, notamment avec une plateforme qui marche du tonnerre qui s'appelle Mchanga, qui est la plateforme de référence entre guillemets quand on parle de crowdfunding en Afrique. Mais pour l'instant, dans la plupart des pays, il n'y a pas véritablement de réglementation là-dessus. C'est totalement nouveau.
En France, ça date de 2014, hein. C'est pas si vieux que ça quand même.
Franck Langevin.
Ah, la question étant, au Burkina, au Burkina Faso, on n'a pas cherché, en fait, il n'y a pas de plateforme en fait, de crowdfunding au Burkina Faso, donc on n'a pas cherché, ça s'est arrêté là, et je ne pense pas qu'il y ait de réglementation spécifique là-dessus. Ouais, donc les gens, de toute façon, il y a 9% des Burkinabés qui ont un accès à Internet, donc de fait aussi, la population qu'on peut toucher via ce type de dispositif est relativement limitée.
Ça veut dire que vous, pour faire financer votre savon anti-moustique face aux soaps, là, pour cette start-up sociale, vous passez par une plateforme qui n'est pas spécifiquement africaine.
Non, on cible principalement actuellement sur notre projet des Français et des Nord-Californiens, pour être précis.
Pourquoi des Nord-Californiens
parce que notre
qui s'intéresseraient au paludisme en Afrique?
Oui, parce que notre projet en fait, a gagné il y a 3 ans le prix mondial de l'entrepreneuriat social, qui s'appelle la GSVC. Ouais. Et donc les gens nous connaissent à San Francisco et à Berkeley. Et donc on veut, vu qu'on parlait de gens, on a oublié de toucher des gens qui nous connaissent, les gens qui nous connaissent sont évidemment en Afrique, sont en France et sont à Berkeley, à San Francisco, donc on est obligé d'aller, on va les voir.
Et donc évidemment, comme vous avez gagné ce prix qui est important, vous le mettez en avant quand vous vendez votre projet sur la plateforme sociale, sur la plateforme de financement participatif. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Stéphie Rose qui est à Paris. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
Nous vous écoutons.
Oui, alors mon nom est Stéphie Rose Niot, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle Je parle Bassa 2.0, qui a pour but de son
approche. Je parle Bassa 2.0, c'est bien ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Donc, ça parle des langues africaines, hein, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Le Bassa, c'est une langue qui vient du Cameroun.
Oui.
Donc, notre projet a pour but la promotion et la préservation des langues africaines à travers les réseaux sociaux.
Oui.
Actuellement, Je parle Bassa 2.0 est suivi par plus de 7000 personnes sur les réseaux sociaux, là où nous sommes majoritairement implantés.
Oui.
Et du coup, étant donné que nous avons un certain nombre de personnes qui nous suivent, leur demande s'est également accrue. Donc nous souhaitons développer de nouveaux outils pédagogiques, notamment développer un site web, développer une application mobile qui permettra à ces personnes d'apprendre le bassin en tout temps et en tout lieu, et aussi ajouter une langue africaine à ce concept qui, pour nous, vraiment représente un devoir de mémoire et un devoir qui touche le patrimoine.
C'est ça, on est sur un vrai projet culturel, et d'ailleurs, comme une grosse partie des projets de financement participatif, les projets culturels ont beaucoup d'importance. Tout à fait. Alors, je sais que vous avez commencé une levée de fonds il y a 10 jours sur KissKissBankBank, donc pour avoir des dons.
Oui, c'est ça. En fait, il y a 10 jours, on a lancé donc sur KissKissBankBank une levée qui a pour but de récolter la somme de 7000 euros. Actuellement, nous en sommes à 12% de l'objectif et il nous reste 37 jours.
Ah oui. Donc, donc c'est help aujourd'hui, c'est ça en fait,
voilà.
En gros.
C'est ça. Donc moi, j'aurais souhaité un peu savoir si, selon vous, KissKissBankBank est la meilleure plateforme pour ce type de projet, et aussi quels seraient les moyens de dynamiser davantage votre campagne.
Jean-Yves Léger.
Je ne veux me fâcher avec aucune plateforme. C'est en tout cas la plus grande. Donc, je pense que c'est probablement celle qui a la plus forte visibilité, mais et en plus une bonne accointance à tout ce qui est art et défense, culture. Par exemple culture. Donc, ça me semble être un bon cheval. Après, ça vient au milieu de beaucoup d'autres projets probablement sur ce site. Et peut-être faut-il imaginer une plateforme un peu moins connue, mais un peu plus ciblée.
C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer ce Batman Africa pour que ce genre de projet qui nous parle tout à fait ne soit pas perdu entre une multitude d'autres projets. Voilà. Pour que les futurs donateurs, contributeurs puissent tout de suite trouver des projets à impact sur le continent.
Donc vous voulez dire que Stéphie Rose aurait peut-être dû aller plutôt sur une plateforme africaine pour s'adresser davantage plus spécifiquement à des Africains ou à des Africains de la diaspora notamment ?
Oui et non, parce que je trouve que quand même KissKissBank, voilà, je trouve que effectivement KissKissBank est une très bonne plateforme. C'est une des plateformes de référence. Quand on parle de KissKissBank, on parle également du LUL. Donc je trouve que voilà, c'est une très bonne plateforme. Mais après, oui, effectivement, il aurait fallu aussi voir du côté des plateformes africaines.
Mais il reste 37 jours, hein.
Rien n'est fait, rien n'est fait.
Franck Langevin.
Juste, on s'est posé la question en fait sur notre projet, quelle plateforme prendre. évidemment, on a mentionné les grandes. En fait, ce qui s'est révélé, c'est que c'est pas forcément la plateforme qui fait le succès. C'est qu'on a tendance, quand on est un peu amateur, à se dire, c'est bon, en fait, on va prendre la plus grande, ou si on va aller, on va aller sur Kickstarter, en fait, aux États-Unis, qui est la plus grosse plateforme américaine, et comme par magie, ça va se faire. En fait, pas du tout. On est vite redescendu sur Terre, vu que c'est encore une fois le réseau au début qui est important. C'est la capacité de pouvoir toucher, en fait, des profs et de pouvoir. C'est un intermédiaire.
Est-ce que vous l'avez bien actionné, ce réseau, Stéphie Rose, puisque vous dites qu'il y a déjà des apprenants en ligne pour la langue Bassa? Est-ce que vous avez su mobiliser le réseau proche autour du projet?
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a 50 jours, enfin on a 37 jours, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, on a le temps, c'est jusqu'au 18 mai, on donnera l'argent un peu plus tard, mais bon, c'est pas très motivant. Après, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on est très suivi par des personnes justement qui sont au Cameroun et eux ne peuvent pas en fait payer en carte bancaire.
Ah, voilà. Alors ça, vous posez une vraie bonne question là. Je pense que vous aviez envie de parler aussi des limites du financement participatif, parce que vous êtes un peu inquiète pour votre projet. C'est l'une des limites que vous souhaitiez évoquer. Vous souhaitiez en évoquer d'autres, Stéphie Rose ?
C'était vraisemblablement
celle-ci. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. Bon courage. 37 jours, rien n'est joué. Hein,
c'est ça.
Effectivement, la faible bancarisation du continent africain, autour de 20% en moyenne de bancarisation, comment on fait? Est-ce que, par exemple, le porte-monnaie électronique en vigueur, on ne va pas citer de marque sur le continent africain, pourrait s'agréger à des plateformes de financement participatif ou pas pour combler le manque de bancarisation? Thomas Kakou.
Oui, totalement. Nous, on a décidé de lancer notre plateforme ici en étant associé à un prestataire de services de paiement qui s'appelle Mango Pay et également le Crédit Mutuel. Mais on voulait également pouvoir être basé en Côte d'Ivoire en étant associé à un opérateur mobile. C'est-à-dire qu'on a
du mobile banking.
Avec du mobile banking, on a fait plusieurs demandes qui sont restées lettres mortes, malheureusement. Mais c'est un objectif d'Itsubatsma Africa de proposer le mobile monnaie qui est incontournable aujourd'hui quand on parle de financement participatif en Afrique.
Jean-Yves Léger, je vois votre
mine. Non, moi j'avais
une
question, pour quelle raison?
Oui, c'est ça, vous avez l'air étonné que les opérateurs de mobile banking ne se soient pas engouffrés dans l'opportunité.
Je pense qu'ils ont vu tout simplement le marché. On avait contacté Orange juste avant qu'Orange lance en Côte d'Ivoire Orange Collect, donc sa propre plateforme de financement participatif. Je pense que les opérateurs mobiles sont plutôt...
Mais il y a d'autres opérateurs mobiles?
Oui, il y en a d'autres. Les opérateurs mobiles sont plutôt enclins à créer leur propre plateforme de financement participatif plutôt que de s'associer à une plateforme déjà existante.
Sur l'obstacle réel de la faible bancarisation du continent africain, Franck Langevin.
On parlait tout à l'heure de nos cibles, en étant la France et l'Amérique du Nord, ou plutôt la Californie du Nord. C'est pas parce qu'on souhaite pas cibler en fait les Africains en Afrique, c'est que c'est compliqué en fait de les toucher via ce, pour l'instant, à ce stade, dû au manque en fait de cartes de crédit, ou une partie de la population qui n'a pas accès en fait aux cartes de crédit. Donc oui, on a vu ça comme un obstacle pour le financement de notre projet. On a aussi réfléchi au Burkina Faso, au mobile banking, et à collecter aussi de l'argent via le mobile banking, via la banque mobile, par exemple, pour parler quand même un peu français pendant cette émission. Mais on y a évidemment pensé, on va voir ce qu'on peut
faire. En dehors de l'obstacle technique, est-ce que vous voyez l'un et l'autre qui travaillent sur le continent africain en partie, Thomas Kakou et Franck Langevin, un obstacle davantage d'ordre psychologique sur le continent africain où finalement on n'a pas forcément envie de donner, on n'a pas les moyens, il y a un problème de pouvoir d'achat, même si on peut donner des très petites sommes, on l'a dit au début de l'émission, qu'il y a en France des gens de conditions très modestes qui mettent 5 euros sur un projet. Donc comment vous sentez les mentalités en Afrique?
Je pense que totalement, il ne faut pas croire, parce que les Africains, les locaux, donnent énormément. Le crowdfunding, comme on l'expliquait, avait une histoire en Afrique au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui sur Internet, quand on parlait des tontines, des collectes solidaires qui se faisaient entre les familles avant. Donc, les locaux donnent beaucoup sur des projets solidaires. Donc, il faut juste...
Au premier cercle.
Mais il faut que le projet
leur parvienne
aux oreilles.
On donne aux amis, on donne à la famille. C'est ça,
La famille, mais il faut également, comme je disais, le projet leur parviennent aux oreilles. Il faut qu'ils le voient, qu'ils le comprennent, qu'ils s'investissent. Mais on va dire qu'en Afrique, on touche plutôt sur des projets solidaires.
Vous nous appelez, on va parler bien sûr, on continue de parler de comment mobiliser quand on veut lancer une opération de crowdfunding et puis aussi les limites du financement participatif. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, il nous reste quelques minutes pour prendre une dernière question. Welcome to the land of the free. Put your feet up in the passenger seat. I be chief driver of the African dreams. Vintage Impalas are running the street. You might see violence when the lions feed. Keep quiet while inside the safari jeep. Snap your pics and ask me things. I'll tell you 1 + 1 = capitalist. Fat cat shit, big five attractions. You don't even gotta leave your house for the action. So introducing the new improved nigga. I'll coon for you in the Gucci suit. Ass backwards, upside down like bad shit. Well adjusted jackets, double breads to standards. Punctuated with a verse and stands. I said a goddamn king of the jungle advances like. And it's so no nonsense. Think about a Ichabod Crane and his horsemen. Head first off with it, they stay walking still. Sort of torso also get divorced in it. But he live it cause he living eating Heimlich. Maneuver than Jack spitting, I'm cooler than lyrics. Undo all the untruths, lie different. That's side two of a vinyl, it's not spinning. High two got the right two. Transmit it so I too get spectacular ad-libbing. Nice sentence, you more than Mandela's. With anthemic street flows like Venice. And italics, I tell it by letters. When the dynamic, by get them, it's magnetic, huh? So to the gentlemen in the nice leathers who stroll through the valley looking for adventure. Oldest ancestors told them folded hand gestures. Bad man in the transit gems. Born for yacht, stop at 10. We've arrived where life began. On parle de la mobilisation quand on souhaite mettre son projet sur une plateforme de crowdfunding, de financement participatif depuis le début de cette émission, juste après Toomey et Chinese Man. Jean-Yves Léger, on a bien sûr beaucoup dit depuis le début de cette émission que c'est vrai que la majorité aujourd'hui de la mobilisation se porte plutôt sur des dons. Hein, on finance des projets avec des dons. Il y a quelque chose de très généreux dans cette finance participative ou des prêts avec... alors avec ou sans intérêt, mais il y a aussi maintenant un vrai business avec investissement au capital. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui veulent miser sur des projets, évidemment là il y a dans l'idée quand même de, à un moment donné, récupérer de l'argent, voire d'en gagner. Hein.
Alors le trend effectivement il est clair, diminution de la part des dons, montée de la part des prêts et montée de la part de l'investissement au capital.
Donc diminution de la générosité.
Traduire comme ça, ou c'est pas aussi
tout à fait le même programme. En tout cas un essoufflement des dons.
C'est pas tout à fait les mêmes projets non plus. On ne finance pas forcément un projet en don comme on finance un projet en capital. Le vrai problème aujourd'hui, il est double. C'est qu'il y a beaucoup de plateformes et il est, à mon avis, pas idiot de penser qu'il va y avoir une restructuration du nombre dans les années qui viennent. Il y en a 66 aujourd'hui immatriculés. Beaucoup d'observateurs pensent qu'en France, il en restera 15 d'ici quelques années. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième limite, à mon sens, de l'investissement en capital, c'est comment on sort. C'est-à-dire que quand on donne, c'est donné. Quand on prête, on espère être remboursé. Le capital, comment on sort? Si vous êtes un actionnaire classique, vous passez par la bourse. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourse du crowdfunding. Et c'est un des points qu'on évoque dans le livre, c'est l'avenir. Effectivement, c'est la liquidité. C'est ce qu'on appelle en jargon financier le marché secondaire. Et effectivement, c'est aujourd'hui une des limites. On est au début, donc ça ne se pose pas trop. 5-6 années, c'est un terme naturel pour un investissement en capital. Mais dans... Maintenant, 3-4 ans, il se passera quoi? Donc probablement, il y aura à structurer ce marché. Peut-être que ce sera l'occasion pour les plateformes de mutualiser un marché secondaire. Peut-être la Bourse de Paris devra s'en saisir. En tout cas, c'est peut-être une des limites.
Et avant de sortir, on peut aussi espérer toucher des dividendes.
C'est effectivement, quand on investit en capital, si on investit en capital, c'est quand même pour être rémunéré. C'est comme d'ailleurs quand on investit dans un prêt rémunéré. Donc effectivement, il est légitime d'attendre un minimum de retour de l'investissement, même si encore une fois, on le sait, la sociologie des investisseurs, des crowdfunders, est différente de celle de l'actionnaire classique.
Thomas Kakou, est-ce que vous pensez, puisque vous avez lancé cette plateforme It's About My Africa, destinée aux entrepreneurs sociaux pour les aider à trouver des financements, est-ce que vous pensez qu'à terme, le financement participatif pourrait se substituer aux banques sur le continent africain?
Non. Pas du tout, parce que je pense que chacun son travail. Les banques ont une place importante, dans l'univers économique et financier. Et les plateformes de financement participatif n'ont pas pour objectif de se substituer. On va dire qu'elles apportent plutôt un complément. Un complément en capital aux porteurs de projets.
Là où ils ne trouvent pas de crédit chez les banquiers, c'est ça?
C'est exactement ça. Mmh. Ouais.
avec des sommes parfois un peu plus importantes que s'ils faisaient appel au microcrédit ?
Oui, un peu plus importante, un peu moins. Ça dépend vraiment des projets. Parce qu'on a des projets qui cherchent à lever environ 1 000 euros, 10 000 euros, 1 million. C'est vraiment assez différent.
Ouais. Merci en tout cas à tous les trois. Jean-Yves Léger, vous publiez Le Crowdfunding. C'est paru chez La Découverte. C'est un petit livre qui tient vraiment dans la poche et où il y a absolument tout ce qu'il faut savoir si on veut se lancer là-dedans. Il y a aussi maintenant des MOOC, hein, donc des formations sur Internet via des plateformes qui créent elles-mêmes leur MOOC, donc leur module d'enseignement pour apprendre aux gens à savoir comment se vendre sur une plateforme internet, et c'est pas évident, on l'a dit depuis le début de l'émission. Thomas Kakou, donc vous êtes fondateur de la plateforme de financement participatif en Afrique, It's About My Africa. On vous souhaite longue vie, bien sûr, avec de
Merci.
Nombreux projets. Franck Langevin,
Merci.
La start-up sociale face aux SOAP, vous démarrez la collecte
Demain
sur la plateforme.
Donc c'est ulule.com/100000vies et vous connaîtrez tout notre projet et on vous incite évidemment à participer pour
voilà.
découvrir le crowdfunding.
Il y avait une info que vous n'avez pas encore donnée et qui pourrait nous décider à investir sur ce fameux savon anti-moustique.
C'est que y a 270 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas de protection contre les moustiques. Voilà.
Merci en tout cas à vous tous et merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages et vos questions. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz, pour toutes vos réactions. Vous pouvez aussi nous écrire à 7milliards@rfi.fr et puis toutes nos infos sont notées sur le site des 7 milliards de voisins sur rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'éducation sexuelle chez les jeunes filles ou comment enseigner la notion de consentement en sexualité. À demain.